Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En direct et en public de la foire de Paris, on les entend. Franck Ferrand choisit de mettre aujourd'hui la Normandie à l'honneur sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, ravi de vous retrouver. Bonjour également à tous. Merci à ce public fidèle qui est venu à la foire de Paris pour assister à l'émission comme l'autre jour. Nous sommes là jusqu'à mercredi. J'en profite pour le signaler à tous les amateurs d'histoire. La Normandie n'est pas seulement le beau terroir des pommiers en fleurs, du cidre et du calvados, celui des vaches mouchetées, du livaro, du camembert et du pont l'évêque. C'est aussi, et c'est d'abord, ce pays merveilleux de bocage, semé d'abbayes, de chaumières à colombages et de haras qui s'étend des falaises d'Étretat à la Suisse normande, des planches de Deauville aux plages du débarquement, du Mont Saint-Michel à la basilique de Lisieux, de la broderie de Bayeux aux grosses horloges de Rouen, du vieux port de Honfleur au patrimoine art déco du Havre, du château de Balleroy à celui de Champ de Bataille. C'est la patrie d'Éric Satie, d'Eugène Boudin, de Claude Monet, de Jean Dubuffet, la terre d'élection de Marcel Proust et de Maurice Leblanc, de Bourville, de Jean Gabin, pour ne rien dire de tous les grands écrivains normands, Malherbe, Corneille, évidemment, Flaubert, Maupassant, j'en passe. Cette Normandie, figurez-vous qu'elle souffle cette année, c'est 1100 bougies. Je me suis dit, Julia, que ça méritait bien un coup de chapeau.
Et vous avez bien raison. Alors, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, chers auditeurs, à adresser vos remarques et vos questions à Franck Ferrand ainsi qu'à son invité. Aujourd'hui, il s'agit de Michel Dedecker, soit à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, soit sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Et comme je sais que vous êtes chaque jour plus nombreux à nous écouter, ce dont je vous remercie, n'hésitez pas non plus à faire connaître ce rendez-vous autour de vous et à le partager grâce au podcast. Alors, je vous propose de retourner aux origines de cette belle région normande, ce beau pays. Vous connaissez la chanson « J'irai revoir ma Normandie ».
Ma Normandie.
Sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Printemps 1911. 1911, il y a exactement un siècle, la ville de Rouen est en ébullition. On a couvert les principales artères de banderoles rouges et jaunes aux couleurs de la Normandie, de gueules aux deux lions d'or. On a bâti pour l'occasion des arcs de triomphe. Les fenêtres sont fleuries comme les fiacres et les quelques automobiles alors en circulation. On fait tresser des guirlandes aux enfants des écoles. On a demandé à la population de confectionner des costumes médiévaux. Et tout ça pour célébrer un grand anniversaire. En effet, sous l'égide d'une association créée 25 ans plus tôt, le Souvenir Normand, la capitale régionale s'apprête à fêter les Northmen, les hommes du Nord, autrement dit les Vikings, ces Normands qui ont pris possession de la province quelques 1000 ans plus tôt. C'est en effet par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Alors en fait, on dit traité, mais il n'existe pas de charte écrite. On devrait plutôt dire depuis l'entrevue de Saint-Clair-sur-Epte en 911 que la Basse-Seine est normande. Cette entrevue archi-connue, mais aussi archi-oubliée, disons-le, a mis en présence les grands chefs des deux camps, celui des envahis et celui des envahisseurs. Chez lui, le roi des Francs, Charles III, dit le simple. C'est l'arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne, un roi carolingien qui va régner très longtemps, 50 ans. C'est un des plus longs règnes de l'histoire de France, totalement oublié entre nous. Et puis en face de lui, un certain Rollon. Il s'appelait plutôt Arrolfur, je le dirai qu'une fois.
Oui, c'est mieux, je crois.
Il deviendra Robert, en traduction romane, un chef viking invincible qui lui aussi mourra très tard, largement octogénaire, en 933. Vous comprenez bien qu'on est là à des périodes tellement reculées que ce qu'on dit est toujours sujet à caution. Hein. On peut penser qu'il est mort vers 933 et qu'il était plutôt octogénaire. Voilà comment on devrait dire les choses. Ils se rencontrent donc à Saint-Clair-sur-Epte et le roi des Francs, pour rétablir la paix et rassurer tous ses peuples, offre une province entière au chef normand, une province qui correspond au territoire que les Vikings ont définitivement investi, à savoir de vastes contrées situées sur les deux rives de la Seine, depuis l'embouchure jusqu'assez loin, au-delà de Vernon. Ça va devenir le duché de Normandie. 1911, à l'époque, ça fait donc 1000 ans tout rond que le duché a été cédé à ces guerriers redoutables venus de Scandinavie sur leur drôle de bateau sculpté, des envahisseurs qui ont fait souche ici après avoir ravagé, pillé, volé, violé, mis à feu une bonne partie de l'actuelle France et notamment toutes les régions côtières et les plaines fluviales. Ce sont des marins, des envahisseurs par voie maritime et donc ils cherchent les embouchures des fleuves pour s'y introduire grâce à ces bateaux extrêmement légers et à fond plat qui leur permettent d'aller à peu près n'importe où. Pour cette grande occasion de 1911, il y a donc un siècle, l'Université de Rouen a préparé un colloque qui s'appellera le Congrès du Millénaire. Le comité des fêtes du millénaire a invité le président de la République, M. Falières, qui a accepté l'invitation et va effectuer à Rouen et dans la région une visite officielle de 4 jours à compter du 23 juin. La célébration n'est pas seulement civile, elle se part évidemment d'une dimension religieuse que l'Église, 6 ans seulement après la loi douloureuse de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, que l'Église n'a donc pas l'intention de taire. En effet, en même temps, il s'agissait pour le nouveau duc de Normandie, Roland, de se convertir au christianisme et de protéger les populations chrétiennes. Ça valait bien quelques messes et processions commémoratives que Monseigneur Touchet, archevêque de Rouen, entend conduire avec éclat. Le dimanche 11 juin 1911, c'est l'ouverture des festivités civiles avec un grand défilé où se succèdent un char de l'agriculture, un char des tissus, un char du cidre et de la pomme, bah oui, ça on n'en attendait pas moins, et puis des héros portant trompettes, des chevaliers sur leurs montures caparaçonnées, des vikings en armure, là je crains le pire, et je cite le numéro spécial du journal de Rouen, des guerriers scandinaves. Aïe, 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 à mon avis, le plus ressemblant, ça devait être les moustaches qu'on portait volontiers à l'époque. On a joué pour la circonstance un morceau qui avait été composé tout exprès par Monsieur Éric Satie.
C'est donc Éric Satie sur Europe 1 avec ce morceau, fête donnée par des chevaliers normands en l'honneur d'une jeune demoiselle, Franck.
Je me disais en entendant ça, Julia, qu'ils devaient être sacrément endormis, les chevaliers normands en question quand même. Parce que on ne peut pas dire que ce soit très entraînant hein,
oui,
pour une fête. Satie avait composé ça en fait en 1888, déjà à l'époque pour une fête normande. Quand je vous ai dit que c'était tout exprès, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, si l'on en croit les affiches et les photos d'époque, les costumières se sont beaucoup inspirées des petits personnages en armes de la célèbre broderie de Bayeux, le Tell du Conquest. Personnages vêtus de cottes de mailles moulantes et de casques à nasal. Le nasal, vous savez, c'est cette pièce métallique qui redescend tout le long du nez. Tant pis pour l'anachronisme, car en l'occurrence, la broderie de Bayeux date de la fin du XIe siècle et non du début du Xe. Qu'importe, l'essentiel, c'est d'y croire, de s'amuser, car en Normandie, on aime bien rire et festoyer. Alors naturellement, Jean-Marie Lévesque de l'université de Caen, qui s'est penché sur ces célébrations du millénaire normand, en a cherché les causes. Si l'on suit sa théorie, il semblerait qu'en 1911, la République se sentait suffisamment ressoudée par plus de 30 ans d'école obligatoire, alors très efficace, et qu'elle pouvait se permettre en quelque sorte de chanter les spécificités régionales sans affaiblir bien au contraire l'esprit national très important dans cette époque de préparation de la revanche. Je cite du reste les vers composés à l'époque par l'écrivain régionaliste Louis Beuve. Nous descendons de cette race fière, des Nordman dont le nom imposait la terreur et qui séduit Neustrie, ô noble terre, par tes forêts, ton fleuve et tes vallons en fleurs, pour les blés d'or délaissèrent la guerre. C'était comme ça qu'on prononçait à l'époque.
Quel
les
accent.
Normands. Les Normands de 1911 étaient-ils les descendants des Vikings de 1911? Bah, pas beaucoup plus en vérité que ceux d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, et alors, 100 ans plus tard, sur un mode mineur, pour ne pas dire assez discret, le vieux duché ne s'en apprête pas moins à fêter ses 1100 ans d'existence. Nous allons l'y aider en revenant sur l'histoire de ces terribles invasions vikings, après quoi, vous allez voir, nous irons faire un tour en Normandie.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
La Normandie est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, puisqu'elle fête cette année ses 1101 bougies. On vous retrouve Franck en direct et en public de la foire de Paris.
C'est 1100 bougies, en effet, devant le public attentif de la foire de Paris. Et à l'occasion de ce 1100e anniversaire, les éditions Pygmalion viennent de publier très joliment du reste une rétrospective illustrée de l'histoire de la Normandie. Ça s'intitule « Les grandes heures de la Normandie » et c'est signé d'un Normand célèbre, Michel de Decker, qui est à mes côtés aujourd'hui à la foire de Paris. Nous revivrons tout à l'heure en sa compagnie quelques chapitres clés de cette histoire haute en couleurs. Alors pour le moment, je voudrais revenir à ce qui s'est passé il y a 11 siècles et plus, à savoir ces invasions vikings qui allaient donner naissance au duché normand. Il va être question ici de drakkars, ces navires à fond plat équipés de rames et de voiles carrées dont la coque est vasée tout en rondeur, suit cette espèce de tracé galbé très beau. Alors, j'en profite tout de suite pour régler un point de langage. On appelle ces navires légers, rapides, maniables des drakkars. En fait, il semblerait que le drakkar soit plutôt le nom des figures de proue, hein, en forme de dragon généralement, qui étaient sculptées très artistement, du reste à l'avant et parfois à l'arrière de ces embarcations. Pour les bateaux eux-mêmes, il vaudrait mieux parler, semble-t-il, de snekkars. Certes, seulement depuis le 19e, on a pris l'habitude d'employer le terme impropre de drakkar, alors pour une fois et le temps de cette émission, je me conformerai à cet usage. Les toutes premières voiles carrées, annonciatrices de violence et de désolation, il semble qu'on les ait aperçues à l'horizon dans l'estuaire, non pas de la Seine, mais de la Loire, à Boin exactement, aux alentours de 820, c'est-à-dire peu de temps après la mort de Charlemagne. Du reste, vous savez qu'à Aix-la-Chapelle, sur son lit de mort, le vieux Charlemagne, les larmes aux yeux, avait prédit ce qui allait arriver. Il avait senti le caractère inéluctable de ces invasions vikings et il voyait tous les malheurs qui allaient en découler. Il faut dire que les toutes premières incursions ont eu lieu du vivant de Charlemagne sur la côte aquitaine en 799. À l'époque, les hommes du nord ont été repoussés par les soldats francs. Il faut dire qu'ils étaient peu nombreux, hein. Ils ne pouvaient pas faire le poids. Au début, ce sont encore de tout petits raids. Par exemple, les annales des rois francs nous apprennent qu'en 822, une attaque du côté de Nantes ne compte qu'une grosse douzaine de drakkars. Seulement, les envahisseurs avaient pour eux le temps et la ténacité. Ils sont donc revenus, hein. Ils vont revenir constamment avec la marée, si je puis dire, constamment plus nombreux et chaque fois plus déterminés. Généralement, l'arrivée des drakkars était précédée par celle d'un couple de corbeaux que les capitaines vikings, lorsqu'ils sentaient les côtes approcher, lâchaient. Ils les lâchaient un peu comme des éclaireurs, si vous voulez. Si les corbeaux revenaient aux drakkars, ça voulait dire qu'on était encore loin des terres, mais s'ils ne revenaient pas, c'était signe que les terres n'étaient plus très loin, qu'elles allaient apparaître. Triste messager en vérité que ces corbeaux qui, de leur vol noir, annonçaient le feu, le fer, le vol et le viol, beaucoup de souffrance et de misère. Car les Northmen, ces Normands, ces hommes du Nord, n'étaient pas des tendres. Michel de Decker nous rappelle quelques-uns de leurs noms pittoresques. Tort, tête de cheval, Bjarni, côte de fer, Thorir, le paresseux, Robert, le rusé, Ragnas, aux culottes poilues. C'est le surpeuplement, la fin. Vous notez tout ça, Julia, j'espère.
Avec attention, je vous suis.
Je ne peux pas vous voir.
Vous ne répéterez pas.
Voilà. Le surpeuplement, en fait, la faim, mais aussi l'appât du gain et l'ambition avaient jeté ces marins hors de leur Scandinavie à la recherche de terres accueillantes. Et c'est peu dire que les royaumes francs étaient plus accueillants que leur terre natale, avec ce beau climat tempéré de la douce France et notamment de la Touraine qui a été dans un premier temps leur cible, avec les gras pâturages pleins de bétail, les céréales, les villages prospères groupés autour des mottes seigneuriales. Dès 840, les drakkars sont de retour à l'embouchure de la Gironde. Ils remontent loin, jusqu'à Bordeaux, même jusqu'à Toulouse. Et c'est en 841 qu'ils s'engouffrent dans l'estuaire de la Seine et remontent cette fois jusqu'à Rouen. J'insiste un peu sur ces dates pour vous montrer que, contrairement à une idée répandue, les hommes du Nord ne se sont pas attaqués à la vallée de la Seine en premier. Ils n'y sont venus que tardivement, presque par hasard. Ce n'était pas pour eux une cible privilégiée. Les dates, en revanche, ne doivent rien au hasard, parce qu'en 840, c'est la mort du fils de Charlemagne, l'empereur Louis le Pieux, et c'est en 843 qu'est signé le très célèbre traité de Verdun, vous savez, qui partage l'empire de Charlemagne entre les trois petits-fils du grand empereur. Et ça, aux yeux des envahisseurs du Nord, c'est perçu comme un constat de faiblesse, de danger, de péril. Pour les Normands, c'est comme une invitation à venir envahir la Somme, la Loire, la Garonne, la Charente. On retrouve bientôt des Vikings sur tous les fleuves de la Francie occidentale, avec à chaque fois des conséquences mortifères. Le chroniqueur Guillaume de Jumièges nous dit qu'il ne restait, après le passage des Normands, pas même un chien qui pût aboyer à leur trousse. Ils tuaient tout sur leur passage. Il faut préciser qu'avec le temps, les Vikings se sont organisés. Ils ont pris l'habitude d'hiverner sur des îles, à Noirmoutier notamment, mais aussi sur l'île d'Oisselle au sud de Rouen. Et à partir de 850, les choses vont se corser. Le pauvre Charlemagne avait vu juste. Les flottes d'envahisseurs comptent désormais 80, 110, 120, 150, voire 200, voire 250 drakkars remplis à ras-bord de brutes sanguinaires, incendiaires, d'une énergie, d'une violence, d'une sauvagerie comme on n'en avait jamais vu de mémoire de Franc. Et je vous prie de croire pourtant qu'en fait, brutalité, les Francs s'y connaissaient un petit peu. Les Northmen multiplient donc les razzias, les raids meurtriers, mais, et c'est le plus important sur un plan historique, de plus en plus, ils prennent l'habitude d'hiverner tranquillement et même de s'installer à demeure. En Basse-Seine, une horde nouvelle pille l'abbaye de Saint-Vendry en 852. Elle s'installe un peu plus loin, plus haut, sur l'île de Jeufosse, entre les actuelles communes de Vernon et de Bonnières. Le roi de Francie occidentale, Charles le Chauve, tente d'établir des barrages sur la Seine, mais en fait, il n'y arrive pas du tout. Et puis, comme il constate l'échec de sa nouvelle stratégie, eh bien, il va négocier avec les chefs vikings. Quand on dit négocier à l'époque, ça veut dire payer en espèces sonnantes et trébuchantes. Et il les paie grassement, Charles. Il les paie pour qu'ils aillent semer la désolation sous d'autres cieux qui ne sont pas très éloignés d'ailleurs, puisque les vikings vont se jeter sur le Val de Loire. Tout cela n'est là que pour reculer l'échéance, en quelque sorte. C'est reculer pour mieux sauter, si j'ose dire. D'ailleurs, dès la Noël 856, les hommes du Nord ont remonté jusqu'à Paris et les voilà qui déjà incendient la cité.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Retour en direct et en public de la foire de Paris où se trouve aujourd'hui Franck Ferrand qui nous parle de l'histoire de la Normandie.
Le jour de Pâques 858, le chef viking Björn fait irruption à Saint-Denis même, au beau milieu des célébrations de Pâques. Les fidèles sont massacrés à tour de bras, et si l'abbé de Saint-Denis est épargné, c'est uniquement parce qu'étant un petit-fils de Charlemagne, il est de ceux dont on peut tirer une rançon. L'évêque de Bayeux, quelques mois plus tard, aura moins de chance, il sera étripé au milieu de ses ouailles alors qu'il célébrait la grand-messe de Pentecôte. Charles le Chauve tente bien de réagir, évidemment, mais son autorité sur ses propres barons est très déficiente. Et finalement, comme il constate qu'il est trahi de toutes parts, eh bien, il se voit obligé de se réfugier en Bourgogne. C'est très important, cette faiblesse du pouvoir royal de l'époque, parce que c'est ce qui explique directement les invasions normandes. Vous savez ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Paris est ravagé de nouveau en 861. Une fois de plus, le roi perd en son, en puisant dans le trésor des abbayes. Au passage, qu'on affaiblit d'autant, tout ça est un cercle vicieux. Or, désormais, les hommes du Nord s'estiment chez eux en plusieurs points de la Francie et notamment dans cette basse vallée de la Seine où ils installent une véritable colonie de peuplement. En 881, les rois alliés de Francie médiane et occidentale redressent la tête. Ils vont anéantir quelques 8000 Normands près d'Abbeville. Ils sont convaincus à ce moment-là d'avoir endigué l'invasion, d'avoir en quelque sorte lancé le repli viking. C'est une pure illusion. En fait, il est bien trop tard. Les Normands, regroupés autour d'un nouveau chef, mettent Rouen à feu et à sang, et puis peu à peu, ils remontent la Seine jusqu'à l'embouchure de l'Eure, et ils se regroupent toujours, ils s'entassent là, faisant masse, et ils s'en viennent aux portes de Paris fin novembre 885. La Seine est alors couverte de dracars sur plus de 2 lieues, nous dit la chronique de Saint-Germain-des-Prés, autrement dit, près de 10 kilomètres d'embarcations vikings à touche-touche, regorgeant de guerriers terrifiants. Il y a là des centaines et des centaines de bateaux déversant des dizaines de milliers d'envahisseurs. Les Parisiens ont quitté les faubourgs et même le quartier latin et se sont réfugiés sur l'île de la Cité, fortifiée pour l'occasion. Et le siège horrible va durer un an de privation, de famine, de coups de force meurtriers, avec des cadavres qui servent à combler les fossés où se jettent des combattants sanguinaires. On peut dire que c'est une des plus terrible et ancienne page de l'histoire de France. Au bout d'un an, arrive enfin l'empereur Charles III, dit le Gros, qui a d'abord régné sur toute l'Italie du Nord et qui se trouve être, depuis la mort de Louis III, régent de la Francie occidentale. Tout ça est tellement complexe que je renonce à vous donner plus de détails. Le Charles III installe ses campements au pied de la butte Montmartre, donc au nord du siège, et il négocie en gros que les Normands épargnent Paris et on leur versera une grosse rançon, qu'ils s'en aillent donc piller la Bourgogne à leur gré et notamment Sens sur Lyonne. Et voici ce que nous raconte la chronique de Trèves. Aussitôt, les Normands firent une chose extraordinaire et qui est sans précédent non seulement dans notre temps mais dans le passé. Ils appliquèrent tous leurs efforts et leur ingéniosité à transporter leur flotte et toutes leurs troupes en amont de la Seine, en laissant la ville derrière eux afin de gagner le fleuve de Lyonne, ce qui leur permettait de pénétrer sans rencontrer d'obstacles dans le pays de Bourgogne. Comme les habitants leur interdisaient avec une énergie sans relâche la remontée du fleuve, ils tirèrent leur navire à sec sur un espace de plus de 2000 pas. Et par ce moyen échappèrent à tout péril, puis ils les immergèrent de nouveau dans les flots de la Seine et naviguant à toute vitesse sur Lyonne, comme ils l'avaient projeté, abordèrent Sens qu'ils assiégèrent 6 mois avant de la dévaster entièrement. Quelque temps plus tard, Charles le Gros est déposé. Lui succède une demi-douzaine de petits rois qui se partagent un empire déjà morcelé. Pauvre Charlemagne, hein, s'il avait pu prédire tout ça. Il faut attendre 893 pour que les Francs se regroupent derrière un jeune souverain de 13 ans, Charles III. Il faut savoir qu'à la même époque, les hordes dispersées de Normands se sont regroupées de leur côté sous la houlette du fameux Rolf que nous appelons Roland. Et en 5 ans, on peut dire que l'équilibre se rétablit plus ou moins. Les Francs, galvanisés par leur jeune roi, opposent une résistance de plus en plus efficace à des Normands qui, eux, de leur côté, sont de moins en moins motivés, je dirais. Le moment est donc venu, la situation est mûre pour une négociation dont l'artisan sera l'archevêque de Rouen, Viton. Puisque désormais le chef normand considère Rouen comme sa capitale, eh bien, face à la capitale de Paris, il est décidé que l'entrevue aurait lieu à mi-chemin à Saint-Clair-sur-Epte. C'est là que se côtoient aujourd'hui l'Île-de-France et la Normandie. La vérité m'oblige à dire qu'on ne sait pas grand-chose sur cette entrevue, sinon donc qu'elle a eu lieu en 911. La première relation qu'on en ait ne date que du début du XIe siècle, c'est dire s'il faut la prendre avec des pincettes, et notamment cette péripétie, vous savez qu'on a longtemps enseigné aux écoliers car elle les amusait. On dit que le vieux Roland, sommé de baiser la pantoufle du jeune roi Charles, aurait tendu la main, Charles a levé le pied, Roland se serait saisi du talon du roi et l'aurait fait tomber de son trône. Ça paraît un petit peu gros tout de même. Ce dont il faut tenir compte, ce qui est certain, c'est que Charles cédait la Normandie aux Normands, que Roland acceptait de se convertir au christianisme. C'était en soi 2 grands événements dont on fête donc en ce moment même le 1100e anniversaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On retrouve effectivement Franck en direct, en public, de la foire de Paris.
Il y a de l'ambiance.
Ah oui, les applaudissements chaleureux, ça fait plaisir. Et on vous retrouve avec Michel Dedecker, qui est votre invité, qui est auteur entre autres du livre Les Grandes Heures de la Normandie chez Pygmalion.
Oui, Michel Dedecker, grand biographe, grand conférencier et j'allais dire grand normand. Ça vous sied bien. Vous me disiez que ça fait quelques décennies maintenant que vous hantez les lieux, Michel Dedecker.
Ça fait un siècle en effet que je vagabonde en Normandie.
Alors, il y a mieux que vous, hein, quand même. Moi, je ne vais pas parler de ma propre famille normande, parce que ce serait déplacé, évidemment, à ce micro. Mais en revanche, Patricia nous informe par Internet que sa famille est normande depuis au moins le 17e, nous dit-elle, et honfleuraise depuis au moins le 18e. Eh bien, nous sommes très heureux de saluer Patricia. Nous saluons également Lougeka, je crois que ça se prononce comme ça. Là, à mon avis, c'est une descendante de Vikings, et qui nous dit que les cérémonies du 1100e anniversaire ont commencé le 30 avril dernier à Caen, et qu'à cette occasion, ils ont pu présenter leur spectacle anniversaire, le spectacle du Blanc Buisson. Le Blanc Buisson, c'est un spectacle de son et lumière qui se trouve à Saint-Pierre-du-Ménil, donc dans l'heure, une heure qui vous est chère à vous, Michel Dedecker.
Absolument.
Nous parlions donc de cette rencontre, de cette entrevue de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Honnêtement, c'est pas grand-chose. On a longtemps dit notamment que le roi Charles le Simple en avait profité pour marier sa fille, toute jeune fille, à Rollon. Et vous, vous tordez le cou à cette fausse idée.
Oui, parce que Rollon était déjà atteint un âge canonique ou presque, et sa toute jeune fille avait 3 ans. Donc, à mon avis, il n'a pas eu le temps d'y goûter. Non. Mais Rollon va quand même avoir des héritiers d'une femme qu'il avait épousée à la méthode danoise, c'est Moret d'Anico, disait-on, c'est-à-dire une manière de Pax, en quelque sorte. Et il a eu des héritiers qui ont, à la 5e génération, eu un duc de Normandie qui s'appelait Robert le Diable, Bob the Devil, comme disent les Anglais, lequel, un jour, à Falaise, cette jolie petite ville de Falaise, arrive à la chasse et dans la vallée, il aperçoit dans une fontaine une ravissante jeune femme en train de laver son linge. Elle est trempée, baignée de mousse dans la fontaine, cette petite lavandière, bien plus jolie que la mère Denis. Il saute à son cou, il lui dit « Je vous aime ». Et dans la nuit, ils vont connaître une nuit d'amour phénoménale, et ils vont avoir 9 mois plus tard un enfant qui va devenir Guillaume.
Et
Guillaume,
voilà.
Le bâtard, le bastard, ça voulait dire né dans une grange, hein, en scandinave, dans la langue noroise, comme on dit. Le bâtard, lequel va devenir ensuite Guillaume le Conquérant.
Le Conquérant et le fondateur de cette dynastie anglo-normande.
Oui,
voilà,
parce que la reine Élisabeth descend un peu de Guillaume le Conquérant, par les Plantagenets.
Un petit peu, en l'occurrence.
La petite fille de Guillaume, Mathilde, a épousé le premier Plantagenet.
Exactement. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui dans notre chère Normandie comme vestige archéologique des Normands? Finalement, pas grand-chose.
Non, les Normands ont immédiatement reconstruit, ça c'était dans le deal passé entre le roi Charles le Simple et Rollon, ils ont reconstruit tout ce qu'ils avaient détruit, les abbayes, les églises, puisqu'ils se sont convertis, tout en continuant un petit peu de prier leurs dieux païens, les Thor et les Odin. On sait que Rollon, avant de mourir, a légué une grande fortune à l'abbaye de Saint Toin, par exemple, mais d'autre part, il a quand même fait égorger 5 ou 6 moines. On ne sait jamais de quel côté ira son paradis.
C'était un pari de Pascal, finalement.
Absolument. Et donc, comme les Vikings venaient débarquer en Normandie sur ce qu'on appelle les drakkars, sans femmes, ils n'amenaient jamais leurs femmes. En revanche, ils amenaient une vache avec eux. Ils trouvaient que c'était plus rentable, sans doute. Et ils venaient sans femmes, et si bien qu'ils se sont intégrés merveilleusement dès la 2e ou 3e génération. Ils ont épousé les petites indigènes, les petites autochtones ravissantes. Elles le sont toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais ce qui est fascinant, c'est de voir la rapidité avec laquelle ces Normands, finalement, se sont intégrés. Au bout de 4-5 générations, on peut dire qu'ils étaient plus français que les gens de Francie. Hein.
Complètement. On n'a aucune trace de construction typiquement viking, donc archéologiquement parlant, il n'y a rien.
Les ruines ont disparu avec eux.
Ils avaient à peine eu le temps de se sédentariser. Ils ont investi immédiatement le pays dans lequel ils se sont installés.
En revanche, il y a des mots peut-être.
Dans la toponymie, oui, les noms de lieux. Vous savez que les vikings avaient leur langue, la langue noroise venue de Septentrion, de Norvège, de Suède, de Danemark, ou d'Islande aussi, eh bien, par exemple, on rencontre beaucoup de noms en bec en Normandie, comme Briquebec, Caudebec. Eh bien, bec, c'est le.
Et Balbec chez Proust.
Et Balbec chez Proust. Là, c'est Cabourg. Oui. le bec, c'est un ruisseau dans la langue viking.
Et les bœufs.
Alors, il y a beaucoup de bœufs.
Bœuf,
c'est la. Voilà, Elbeuf, Briquebeuf, Bœuf, c'est la cabane chez les Vikings. Et ce n'était pas forcément des grands jardiniers, les Vikings, mais pourtant, ils ont beaucoup de noms en fleurs. Vous connaissez tous en fleurs, figue-fleurs, barre-fleurs, etc. Et fleurs, ça désigne un cours d'eau, un fjord, un cours d'eau d'estuaire. Voilà, donc, hormis la toponymie et le langage maritime, parce que la plupart des mots langage maritime viennent des Vikings, le tribord et bâbord, ce sont des mots vikings, des noms de poissons comme le marsouin, comme le crabe, tout ça, ce sont des mots vikings.
Ah ben voilà, donc finalement, il y a bien un héritage viking et il est beaucoup plus vivant que ce qu'on pourrait croire.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Franck qui est toujours en direct, en public, de la foire de Paris.
Et on vous le prouve.
Ah bah on l'entend bien, ça fait plaisir. Alors on vous retrouve avec Michel de Decker.
J'ai quelques lubies comme ça, quelques manies, on va dire. Et notamment, je dis très souvent à ce même micro, mais j'espère que ça n'est pas en pure perte, que s'il y a bien une chose qu'il faut voir, et notamment lorsqu'on est en promenade, en vacances, en week-end en Normandie, c'est l'extraordinaire tapisserie de Bayeux, comme on l'appelle, qui en fait est cette immense, fabuleuse broderie qui raconte... Et qui raconte bien des choses, mais notamment, essentiellement, la conquête de l'Angleterre par les troupes de Guillaume le Conquérant. C'est vraiment un vrai, très grand chef-d'œuvre et c'est toujours une très grande émotion de voir ça, je crois. Et si on peut la voir en dehors des mois de juillet et d'août où il y a un monde considérable et des heures d'attente, c'est encore mieux, évidemment. Michel de Decker, Guillaume le Conquérant, ça reste le grand personnage de la Normandie,
oui,
le père tutélaire.
Et la broderie de Bayeux, en effet, c'est la première bande dessinée de l'histoire,
exactement,
tout simplement. Oui. C'est vrai que Guillaume, bon, il a un lointain tonton en Angleterre qui meurt sans héritier. Édouard le Confesseur, qui menait une vie évidemment de moine, donc il n'a pas d'héritier, et qui promet le trône à Guillaume. Et Guillaume y va par la force, parce qu'on avait subtilisé la couronne à sa place, et il débarque, on le sait, en 1066, et il se fait couronner le 25 décembre 1066.
Juste après la victoire de Hastings.
Après Hastings, il arrive à Westminster, là où on a marié très récemment.
Oui, exactement. Nous les avons mariés vendredi.
Et bon, bah, il va rester, donc il va être roi d'Angleterre, il va rester duc de Normandie. Normandie qu'il va vraiment mettre sur pied, organiser avec deux capitales, une capitale politique à Rouen, une capitale religieuse à Caen, où il a fait construire deux abbayes, une pour son épouse, la reine Mathilde, et la sienne, l'abbaye aux
hommes. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, finalement.
Et pas de jaloux, absolument. Et là où ça va mal se passer, c'est arrivé à quand il a 60 ans. D'abord, Guillaume, au début de sa carrière, est un bel athlète, vraiment une belle statue d'Arnaud Brecker, une statue d'athlète. Mais à 60 ans, il est devenu obèse, ventripotent, lourd, très lourd. Et le roi de France, à ce moment-là, Philippe Ier, voyant que la Normandie est devenue la province la plus riche, certainement, du royaume, a envie de la récupérer. Bon, Guillaume s'y oppose, lève une armée et dit « Eh bien, c'est moi qui vais devenir roi de France. Je serai roi d'Angleterre, duc de Normandie et roi de France. » Il lève une armée, il monte jusqu'à Mantes-la-Ville ou Mantes-la-Jolie. Et à ce moment-là, il incendie l'église. Les vieux démons païens des Vikings le reprennent le dessus. Dans l'église, une clé de voûte s'effondre sur son cheval qui se cabre. Et Guillaume vient s'éclater le ventre sur le pommeau de la selle. On le descend de son cheval. On se met à plusieurs, à 5 ou 6 pour le descendre parce qu'il était devenu, je vous l'ai dit, extrêmement lourd. Et on le ramène à Rouen où, hélas, la septicémie se met dans la plaie et il meurt. Et on va l'enterrer à Caen où il est encore enterré aujourd'hui. Mais vous savez, il y a eu ce problème terrible parce qu'on a immédiatement prévenu le tailleur de pierre de Voldéry, là, Caen, lui disant « Il nous faut un sarcophage pour le duc de Normandie ». Et ce tailleur de pierre se souvenait du Guillaume très, très fin, très athlète, si bien que quand on a amené sa dépouille, on a essayé de la mettre dans le sarcophage, ça ne rentrait pas. Le tailleur de pierre a appelé ses amis « Mais il faut quand même que ça rentre, allez, venez m'aider à pousser ». On a poussé, et le ventre a éclaté. Et imaginez les odeurs méphitiques qui ont plané. Ne me dites pas que c'est l'origine des tripes à la mode de Caen. Ce serait quand même énorme.
Hein. Bon appétit à tous ceux qui sont encore à table. Ça a été un grand moment que nous venons de vivre. Merci. Merci Michel de Decker.
Et après Philippe Ier, bien c'est Philippe II Auguste.
Alors c'est lui qui
va récupérer la Normandie.
1204.
1204, exactement. En venant à bout de Richard Cœur de Lion, de son frère Jean Santerre, en s'emparant du château Gaillard, en récupérant Rouen, et la Normandie est définitivement annexée à la France.
Vous voyez d'ailleurs pour les fidèles, les plus fidèles de l'émission, qu'on finit par faire comme ça des recoupements passionnants, puisqu'on disait l'autre jour que 1204, c'était la date évidemment de la quatrième croisade, de cette croisade vénitienne contre Constantinople, que c'est juste avant donc le lancement de la croisade contre les Albigeois, cette espèce de reprise de possession par les seigneurs du Nord de toutes les terres du Midi. Eh bien, 1204, c'est aussi le moment donc où Philippe Auguste récupère aux Anglais, reprend la Normandie. Elle n'a pas toujours été française depuis, la Normandie. Hein.
Et non, parce qu'on sait qu'avec l'affaire des trois fils de Philippe le Bel, qui meurent tous sans héritier, hein. Louis X, Philippe IV, Charles V meurent sans héritier.
C'est les rois maudits.
Les rois maudits, sans héritier mâle. Mais Philippe avait une fille, Isabelle, qui avait épousé le roi d'Angleterre. Et elle avait un fils qui régnait sous le nom d'Édouard III en Angleterre. Et Édouard II, je crois. Édouard III dit, mais moi, je suis roi de France, puisque mon grand-père était roi de France. Et les armées anglaises envahissent la France, et notamment la Normandie. Et c'est le début de la guerre de Cent Ans, qui ne se terminera que 116 ans plus tard.
Finalement, c'est en Normandie que se passe l'essentiel de cette guerre de Cent Ans, y compris la terrible défaite, le désastre absolu d'Azincourt en 1415.
Absolument. Vous savez, la Normandie était la terre tampon entre la France ou l'île de France et l'Angleterre. Donc, tout circulait, tout transitait par la Normandie, absolument. Et c'est là, en effet, on le sait, que en 1431, à Rouen... Sur la place du Vieux-Marché, on brûlera la pauvre petite Jeanne d'Arc.
Certains ont remis cette version en cause, là, récemment. Vous pensez qu'elle a bien été brûlée à Rouen?
Traditionnellement, on nous dit qu'elle n'a pas été brûlée. On nous dit que Napoléon est mort empoisonné. On nous dit tout un tas de choses comme ça, traditionnellement. Mais je crois vraiment qu'elle est morte brûlée à Rouen. Il y a des témoins, les archers anglais qui sont là et qui ont bien vu qu'on n'avait pas subtilisé le corps, que c'était elle qu'on avait amenée de la tour, dite la tour Jeanne d'Arc, pour la mettre sur le foyer, hélas.
Alors, à partir de quand la Normandie devient-elle définitivement française? À partir de quand rentre-t-elle dans le giron de la couronne de France pour n'en plus sortir?
Alors la Normandie rentre dans le giron de la couronne de France à la fin de la guerre de Cent Ans avec le roi Charles VII. Et encore grâce à une très jolie femme, c'était sa maîtresse, qui s'appelait Agnès Sorel, qui est enterrée au château de Loches. Et Agnès Sorel...
Qu'on a réenterrée il y a quelques années.
Déplacée, on va dire. Elle a eu, c'est vrai, une existence post-mortem assez mouvementée. Entre l'église, dans tel endroit de l'église, dans tel autre endroit, parce que les chanoines trouvaient qu'elle était, elle les dérangeait, entre la cave du château, etc. Mais Agnès Sorel était venue en Normandie, elle était enceinte, j'allais dire jusqu'à la gorge, oui, de Charles VII, et puis elle est morte en accouchant, et c'est elle qui avait dit au roi, on le sait, enfin la légende le raconte, et je crois qu'il n'y a pas de légende là sans fond de vérité, elle avait dit à Charles VII, j'ai rencontré mon devin l'autre jour qui m'a dit que j'allais être la maîtresse d'un très grand roi, ça ne peut pas être vous, puisque vous ne faites rien, que vous laissez la Normandie occupée par les Anglais, ce doit être le roi d'Angleterre. Alors il a été piqué au vif et il a levé les armées et il a chassé les Anglais lors de la dernière bataille de Formigny.
Formigny qui sera le retour de la Normandie
dans le giron
de la France. Les Normands sont bien français aujourd'hui incontestablement. Il n'y a pas tellement de régionalisme du reste. Il y a un attachement aux racines,
oui,
à la culture,
absolument,
etc.
Mais vous savez, la Normandie est quand même une gigantesque province, peut-être la plus grande de la métropole, parce qu'il y a 5 départements tout de même, la Manche, l'Orne, le Calvados.
Deux régions, c'est bien d'ailleurs un problème, puisqu'on parle de n'en faire
plus. En réalité, mais il n'y a pas deux Normandies, il n'y en a pas une, il y en a 50. Vous savez, quand on va d'une ville comme Gisors jusqu'à Cherbourg, on rencontre 50 paysages différents, 50 coutumes différentes aussi.
Nous étions en hélicoptère jusqu'ici. Michel de Decker, je vais vous demander de passer à l'avion parce qu'on va vraiment très très vite. Tout petit mot juste d'Henri IV qui quand même a beaucoup...
Henri IV a beaucoup marqué l'histoire de la Normandie, bien entendu. Également parce que la Normandie lui fournissait des ravitaillements de l'Angleterre, puisqu'Henri IV était protestant à ce moment-là et se battait contre les armées de la Ligue, les armées des Guises, des Guisards. Donc il a remporté quelques merveilleuses batailles à Ivry, qui doit le nom d'Ivry-la-Bataille, et la bataille d'Arc également à côté de Dieppe.
Et pour juste, merci pour cette extrême concision, et juste après la publicité, nous irons retenir notre cabine de bain près des planches de Deauville.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pas danser et chanter en 1987 sur cette chanson de Gérard Blanchard. Lève la main, personne, c'est normal. Elle voulait revoir la Normandie.
Eh oui, Franck. C'est tout à fait de circonstance. Elle est bien cette chanson.
Elle est très bien.
Alors, nous faisons un grand saut dans le temps, parce qu'il y aurait encore tellement de choses à raconter. Évidemment, moi, il y a un sujet qui me passionne, notamment, c'est le naufrage du Télémaque. Mais peut-être qu'on fera une émission ensemble un jour.
Ça, c'est la révolution, ça. La révolution où on a aussi la petite Normande Charlotte Corday qui arrive de Caen pour aller, vous savez,
nièce
poignarder...
Nièce de Pierre Corneille, du reste.
Absolument, une nièce de Corneille pour aller poignarder Marat dans sa baignoire. Marat, qui, on était en plein été, qui voulait se rafraîchir et elle l'a refroidi.
Ah oui, ça, c'est le mot. Alors, pour se rafraîchir, il y a tout simplement les bains de mer. Ça, c'est une invention très tardive, assez moderne, mais c'est aujourd'hui ce qui fait la magie, n'est-ce pas, de cette Normandie,
de
pour les Parisiens,
Normande,
en tout cas.
De la côte d'Albâtre ou de la côte fleurie.
Et
alors tout ça remonte à l'origine à la petite duchesse de Berry, qui va commencer à faire ses premiers bains de mer à Dieppe.
Donc la nièce du roi.
La nièce du roi, qui transforme la station de Dieppe en véritable station balnéaire. Et puis après, on arrive sous le Second Empire avec le demi-frère de Napoléon III, qui était son ministre de l'Intérieur, qui était le duc de Morny, le célèbre duc de Morny. Ils avaient la même maman, qui était la reine Hortense, mais pas le même papa, puisque le duc de Morny était le petit-fils de Talleyrand, comme on le sait. Et Morny, étant richissime, avait envie de placer son argent et de se lancer dans des opérations immobilières considérables. Il a vu ce marécage du côté de Deauville et il s'est dit, je vais acheter tout ça et je vais construire une ville nouvelle et une station balnéaire. D'abord pour faire un placement d'argent et ensuite aussi pour pouvoir se libérer de son épouse, qui était une jolie jeune femme de 25 ans, la petite Sophie Troubetskoy, mais qu'il l'épie un peu trop souvent alors que lui passait son temps à la tromper. Alors il lui a dit, que diriez-vous, petite fée des neiges, d'avoir un château à la campagne et au bord de mer? Elle a dit oui, elle a claqué des mains et il lui a construit un très beau petit château à Deauville, à l'emplacement de l'hôtel Le Royal aujourd'hui. Pendant ce temps-là, il a pu continuer de vivre sa vie de débauche à Paris.
Vous savez, l'année dernière, Michel de Decker, moi j'habite là-bas, sur la côte fleurie, donc je vais de temps en temps faire mes courses à Deauville et en arrivant le jour du 1er avril, je n'avais pas vu la date, je vois Morniville et tous les panneaux avaient changé. C'est la municipalité de Deauville qui, dans la nuit, avait fait changer tous les panneaux d'indicateurs. C'était très drôle.
Ah oui.
Ils avaient rebaptisé la ville Morniville, mais à la limite, ce ne serait que justice, on peut dire.
On avait envisagé de la baptiser Morniville. Ouais. Et vous savez que quand il est mort, le duc de Morny, la petite Sophie Troubetskoy, dont je vous parlais, son épouse, a eu ce geste merveilleux. Elle a coupé ses belles anglaises qu'elle a jetées sur la dépouille de son mari dans le cercueil en disant « Mon mari m'a tellement trompé que je ne sais même pas si mes enfants sont de lui.
» C'est tout l'art du salon du 19e siècle.
C'est tout l'esprit de cette époque-là,
absolument. Oui, merveilleux.
Alors évidemment, toute cette côte a donné naissance ou a porté tout le mouvement impressionniste.
Alors bien sûr.
Claude Monet, tous les grands peintres.
A commencé d'abord par Eugène Boudin. C'est lui sur lequel il faut revenir parce qu'on n'en parle jamais. C'est
absolument
un de nos plus grands peintres.
Tout à fait. C'est un petit peintre, enfin un petit qui est devenu un grand, mais qui n'avait aucune célébrité, qui travaillait à Honfleur et qui rencontre un jour un adolescent
chez un marchand de couleurs.
Chez un marchand de couleurs. Chez Monsieur Gravier, il s'appelait Monsieur Gravier, ce marchand de couleurs, et cet adolescent faisait des caricatures. Et le petit père Boudin lui tape sur l'épaule en lui disant « Mais dites donc, c'est bien ce que vous faites, mais vous devriez venir peindre avec moi en extérieur. » Et l'autre l'a suivi, et l'autre s'appelait Claude Monet, tout simplement. Et Monet le dira « Je dois tout à Boudin, qui savait caresser les nuages comme on caresse l'épaule de sa maîtresse. »
Monet qui va inspirer à Proust le personnage d'Elstir dans le deuxième tome de La Recherche du Temps Perdu, qui s'appelle « L'ombre des jeunes filles en fleurs », qui se passe théoriquement à Balbec, mais Balbec c'est donc Cabourg.
En partie écrit au Grand Hôtel de Cabourg,
c'est ça,
absolument.
La chambre de Proust existe toujours.
Tout à fait, et ce restaurant, j'allais dire ce réfectoire, ce merveilleux restaurant.
Avec ces grandes vitres
ces
dont on parle,
que Proust appelait l'aquarium.
C'est ça, exactement, avec ses reflets
et
de la
nous avons
mer.
Entendu quelques extraits d'Éric Satie tout à l'heure.
On peut en réentendre d'ailleurs si vous voulez, on peut avoir un peu
Éric
de gymnopédie par exemple.
Éric Satie, on le sait, est un merveilleux musicien né à Honfleur, qui était aussi lui comme Alphonse Allais. Alphonse Allais est un écrivain français plein d'humour qui est né à Honfleur. Honfleur est une petite ville dans laquelle naît l'humour. Alphonse Allais disait par exemple qu'il était normand par sa mère et breton par un ami de son père. Et Éric Satie arrive chez son marchand de musique avec une partition, lui disant « Voulez-vous méditer cette partition ?»« Certainement », dit son marchand de musique. Et il regarde la partition, il n'y a aucune note sur les portées. Il dit « Mais enfin, ça ressemble à quoi ?»« Monsieur, c'est une marche funèbre et les grandes douleurs sont muettes.
» Il y avait chez Satie un aspect Alphonse Allais, un peu. Hein,
Alphonse Allais l'appelait d'ailleurs Ésotérique Satie.
Ésotérique Satie.
Il y a une maison, Éric Satie, aujourd'hui, qu'on peut visiter
musée,
à l'entrée de d'Honfleur. C'est une évocation plutôt, parce que finalement, il n'a quasiment pas vécu dans cette maison-là. C'est la maison natale.
Oui, tout à fait.
Alors, pour revenir à Claude Monet, qui est votre voisin, à vous tout de même.
Tout à fait, de Giverny.
De Giverny, c'est l'homme qui a peint toutes les cathédrales de Rouen.
Exactement, oui. Qui s'est lancé dans. Monet, c'est le peintre qui se différencie des autres parce qu'il a créé la loi des séries. Il a fait des séries de meules de foin, des séries de peupliers.
Pour essayer de capter à chaque fois l'heure du jour. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait plusieurs toiles l'une à côté de l'autre et en fonction de l'heure et de la luminosité très spécifique, hop, il passait d'une toile à l'autre.
La meule de 9h, la meule de 10h, la meule de 11h. Jusqu'au jour, un paysan de Giverny, parce que c'était un village, et Monet ne s'entendait pas avec les agriculteurs, qu'il surnommait d'ailleurs les cultivants. Et le paysan, voyant Monet à l'œuvre dans ses meules de foin, est arrivé avec sa fourche et a voulu démonter les meules. Monet lui a dit, mais ne faites pas ça, vous allez me gâcher toute ma série de tableaux. Je vous rachète vos meules de foin. Et il a racheté très cher les meules de foin.
Monet qui s'est installé donc à Giverny. On est là dans le Vexin normand. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore la Normandie? Vous allez me dire oui, vous, bien entendu.
Oui, on est à la frontière. C'est la frontière de la France et de la Normandie, très précisément.
Oui, c'est ça, oui.
Donc c'est le plus beau jardin du monde qu'il a créé.
On le dit, c'est devenu maintenant. Vous savez, la maison a failli tomber en ruine pendant des années, et puis l'Institut de France a repris les choses en main.
Et Gérald Van Der Kemp, au passage, il faut le dire, c'était en 1976.
Oui,
Gérald Van Der Kemp était l'ancien grand conservateur du château de Versailles.
C'est
à lui qu'on doit le sauvetage de la maison de Monet et de ses jardins.
De Giverny, exactement.
Si vous aviez, cher Michel de Decker, un conseil à donner à nos auditeurs qui vont avoir quelques week-ends là devant eux, on arrive au beau jour. J'ai parlé évidemment de la tapisserie, enfin de la broderie de Bayeux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut voir en
Giverny,
priorité?
Il faut voir Giverny aussi. J'y suis allé il y a quelques jours.
Ne me dites pas le Mont-Saint-Michel, parce que ça, tout le monde a bien sûr l'idée déjà.
Oui. Non, mais il y a des petits ports ravissants, comme le port de Barfleur, exemple. Barfleur, au fond du Cotentin, c'est absolument ravissant, c'est typique, c'est dans le jus. C'est là où le petit-fils de Guillaume le Conquérant s'est noyé, d'ailleurs, à bord du naufrage de la Blanche Nef. Mais les rochers sont là, il nous raconte encore ce naufrage. Enfin, tout est vraiment très vivant et c'est très beau.
Michel de Decker, Les grandes heures de la Normandie, c'est publié chez Pygmalion. C'est un véritable guide de voyage, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Merci de votre verve et de l'amour que vous portez à cette région et que nous partageons. Eh bien voilà, elle a fini par venir. Voici, et vous pouvez l'applaudir chaleureusement, Faustine Bollard.
Bonjour.